Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Vous êtes bien à l'écoute de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est une photographie qui était très attendue par le monde médical, par les pouvoirs publics et plus largement par tous ceux avides de comprendre comment et qui le coronavirus a réellement frappé en France depuis le début de la crise. Plus de 130 000 personnes interrogées pour la première étude d'ampleur compilée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, étude qu'ont supervisé nos deux invités. Bonsoir Josiane Warzawski.
Bonsoir.
Médecin épidémiologiste à l'INSERM et bonsoir Nathalie Bajos.
Bonsoir.
Sociologue et directrice de recherche, merci à vous deux d'être en ligne avec nous. Le coronavirus a fortement accentué les inégalités sociales, professionnelles, raciales aussi. Ce sont vos conclusions, on va les détailler. Mais d'abord, expliquez-nous un petit peu comment vous avez mené ce travail qui est quand même titanesque.
Alors, je vais peut-être commencer. On a effectivement... Oui, voilà. On a commencé à avoir cette idée juste au début du confinement pour, car il fallait absolument une photographie, une connaissance vraiment de la diffusion du virus au niveau national, au niveau territorial et de façon représentative. Mmh. Et donc, on a monté cette étude dans un temps assez record pour, vu son ampleur et vraiment en accélérant tout ce qu'on peut faire pour que la recherche puisse aller au plus vite avec la bonne, une grande qualité. Et donc, on s'est associé avec nos partenaires de Santé publique France et de l'INSEE pour, et de l'ADRES pour monter un échantillon national à partir d'une base administrative de l'INSEE qui couvre 95% de la population, de façon à pouvoir avoir un échantillon
représentatif
qui couvre toute la diversité de la population, mm-hmm. y compris les plus vulnérables.
Les résultats de cette étude concernent donc la première vague au printemps. Sans surprise, c'est dans le Grand Est et en Île-de-France qu'on trouve le plus de personnes frappées par le Covid. Mais quand on fait le portrait robot du malade type du Covid en France, la première surprise à vous lire, elle vient de l'âge. Ce sont les 30 à 50 ans qui ont été les plus touchés.
Oui, c'est ce qu'on retrouve, effectivement. C'est sans doute là que les contacts avec le virus sont les plus nombreux. Ça n'était pas à cette époque, hein, au moment de la... Là, l'étude, elle porte finalement sur l'infection, sur le contact avec le virus entre le début de l'épidémie et la fin du confinement. C'est la population active, celle qui a eu le plus de contacts. Les plus âgés se sont probablement déjà en partie protégés. Ils ont moins de contacts et on leur a recommandé vivement d'éviter ces contacts assez vite.
De rester chez elles et ça a fonctionné.
Et voilà. Et ça a fonctionné.
Les femmes ont été plus touchées que les hommes. Nathalie Bajos, 5% de femmes infectées contre 4% chez les hommes. Il y a une explication.
Alors, en fait, effectivement, il y a un taux un tout petit peu plus élevé chez les femmes, mais quand on regarde de manière approfondie, en fait, cette explication renvoie à des positions qui sont un peu particulières d'un point de vue social, notamment en termes de travail. Donc, au final, on ne trouve pas une surexposition des femmes par rapport aux hommes dans l'étude EPICOV.
Vous parlez du travail. Oui, vous parlez de travail, justement. Les soignants, le personnel médical ont été particulièrement touchés. Plus de 11% des personnes qui travaillent dans le domaine du soin. Une sur 10, c'est plus du double de la moyenne de la population.
Alors effectivement, c'est un taux qui est plus du double de la moyenne nationale, qui vous le rappelez à l'instant, est de 4,5%. C'est vrai que les professions de santé ont été très très exposées, ce que montre clairement l'enquête. Ce qu'il faut souligner également, c'est que pour les autres professions, et notamment les professions dites essentielles, hein, toutes ces personnes qui ont été amenées à continuer à travailler à l'extérieur de manière massive au moment du confinement, il faut attendre les résultats de la deuxième vague pour pouvoir donner des chiffres mmh. précis, parce que pour l'instant, la taille de l'échantillon qui a reçu un test ne nous permet pas de donner des chiffres précis. Et vous comprenez bien que cette population des personnes qui ont continué à travailler pendant le confinement est extrêmement hétérogène. Vous avez des aides-soignantes, des conducteurs de bus, des caissières, des livreurs, etc. Mmh. Toute une série de populations très, très hétérogènes. Et il faut attendre la deuxième vague qui aura lieu, qui commence la semaine prochaine et pour laquelle on aura près de 90 000 tests qui vont être proposés à la population.
Un deuxième volet de votre étude en cours. Josiane Warzawski, Nathalie Bajos, il y a une surprise aussi sur le niveau de vie de ces malades, les personnes les plus touchées. On a beaucoup parlé des travailleurs les plus pauvres, en première ou en deuxième ligne. En fait, on a à peu près la même proportion de malades des deux côtés du spectre, chez les 10% des Français les plus riches et chez les 10% des Français les plus pauvres.
Alors exactement, et ça traduit des phénomènes, différents phénomènes, peut-être, Nathalie veut peut-être rentrer peut-être un peu plus dans les détails, puisqu'il y a des phénomènes
sociologiques,
d'exposition sociale qui ont évolué, voilà, sociologiques qui ont évolué entre avant et pendant le confinement, peut-être Nathalie...
Comment on explique, Nathalie Bajos, que les plus riches et les plus pauvres des Français soient finalement affectés au même niveau?
Oui, effectivement, c'est un résultat qui est tout à fait intéressant et qui traduit, comme le disait Josiane Dorjatsky à l'instant, en fait, un phénomène de déplacement du profil social de l'épidémie. Et ce qu'on a pu montrer grâce à d'autres travaux qu'on a réalisés également dans le cadre des grandes cohortes épidémiologiques qui ont été menées en France, une enquête qui a été menée dès le mois d'avril, et qui montre qu'en fait, avant le confinement, ce sont essentiellement les catégories, surtout, je dirais, les catégories sociales les plus favorisées qui ont été en contact avec le virus, des catégories, en particulier les cadres supérieurs qui étaient amenés à sortir davantage, à avoir être confrontés à plus d'interactions sociales de par leur travail, les voyages, mais aussi des lieux de socialisation, restaurants, etc., etc., que les catégories populaires. Et quand le confinement a été mis en place, il faut, je crois, rappeler que ça a été une mesure extrêmement efficace du point de vue de restreindre la diffusion de l'épidémie, mais on s'est rendu compte que finalement le confinement a été plus bénéfique à certaines catégories qu'à d'autres, et en particulier plus bénéfique au cadre supérieur qu'aux catégories les plus défavorisées.
Et c'est là que vous montrez que l'épidémie, oui, a creusé les inégalités, et notamment les personnes peut-être les moins à l'aise économiquement sont celles qui ont dû le plus continuer à travailler pendant le confinement et qui donc ont été les plus infectées.
Alors c'est effectivement un phénomène très très compliqué, hein, vous l'imaginez bien, mais effectivement, comme le confinement a bénéficié davantage aux catégories aisées qu'aux autres de la population, il y a eu une accentuation des inégalités sociales. Peut-être un chiffre pour les auditeurs, pour bien comprendre ce qu'on entend par là. Pendant le confinement, 50% des cadres ont travaillé exclusivement à domicile, alors que ce pourcentage est de 1%. Pour les personnes qui relèvent du monde ouvrier.
On imagine la différence d'exposition.
Alors c'est un des éléments, c'est un chiffre pour illustrer le phénomène, mais de fait, et c'est un résultat important de cette étude, je crois qu'il faut le souligner, cette étude, elle est épidémiologique et sociologique, et c'est assez rare que dans la recherche en santé publique, on puisse avoir simultanément l'analyse épidémiologique qui permet de décrire très finement ce qui se passe au niveau du contact avec le virus et une analyse sociologique qui complète et qui permet de comprendre le sens des chiffres qu'on observe.
50% des cadres ont pu télétravailler, 1% seulement des ouvriers, selon votre étude. Une dernière question, simplement en regardant après coup vos résultats, quels enseignements vous en tirez, notamment pour la suite et pour cette deuxième vague qu'on est en train de voir arriver sur la France ?
Alors, justement, on a ces données qui sont au décours du confinement. On va pouvoir, avec la deuxième vague, savoir quelles sont finalement les catégories de la population où l'épidémie progresse le plus, et en tirer des enseignements aussi sur finalement ce qui s'est passé avec toutes les mesures qui ont été prises depuis le début de l'épidémie, pour mieux comprendre ce qui a pu éventuellement agir ou pas agir ou moins bien agir, d'une part. Et d'autre part, on va également pouvoir mieux identifier l'impact de la contamination intra-foyer et des différents facteurs qu'on a mis en évidence. Donc c'est vraiment ces deux points ensemble, la vague de l'état de après le confinement et ce qui va se passer à l'automne, qui va nous apporter des enseignements extrêmement importants pour comprendre ce qui peut aider à agir ou pas agir sur l'épidémie.
Et une étude qui aidera aussi peut-être à mieux orienter les dispositifs d'aide mis en place par l'État. Merci en tout cas à vous deux, Nathalie Bajos, sociologue et directrice de recherche à l'INSERM, Josiane Warzawski, médecin épidémiologiste au sein de l'Institut. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour détailler cette vaste étude inédite et si instructive. Merci beaucoup. Europe Soir Weekend. Théo Manval.